Alors, il me faut commencer, bien évidemment, par remercier mes hôtes. Je suis très heureuse, particulièrement heureuse, de revenir m'exprimer en ces lieux, parce que, comme l'a dit Pierre Girard, c'est ici que j'ai commencé mes études d'histoire. Et alors, je suis ravie de voir un public aussi nombreux. Vous aurez sûrement beaucoup d'avis très éclairants, parce que je suis arrivée ici avec des réflexions et pour solliciter des avis sur un parcours historiographique très général. Assez éloignée par certains aspects du sujet précis de ma thèse. Il me semblait que c'était un moment opportun pour essayer de mettre un peu en forme ces réflexions et les proposer à un public. Je suis comblée par son nombre important, impressionnée même un peu. Et voilà, donc il s'agit de réflexions sur une légende noire italienne, le Mezzogiorno sous domination étrangère au XVe siècle. Comme l'indique ce titre, il sera essentiellement question d'historiographie dans mon propos et principalement de l'une des légendes noires les plus tenaces de l'histoire des États de la période modèle, celle de la décadence espagnole, je cite, c'est entre guillemets, entraînant dans son sillage celle du Mezzogiorno. Il est question aussi des conséquences de cette légende noire sur la façon de faire l'histoire du royaume de Naples, au XVe siècle dans mon cas, avant que le Sud ne soit réputé être entré donc, dans cette phase de décadence. Mais une anecdote significative, à mon avis, de l'importance de ce thème et de la naturalisation en Italie à l'heure actuelle des idées de décadence et d'occupation étrangère à Naples, c'est quand j'ai commandé il y a 15 jours l'ouvrage d'Ernesto Pontieri, Tempi Grigi della Storia d'Italia, à la Bibliothèque Nationale de Naples, où je suis allée pour le chercher, pour préparer la séance du séminaire. La personne du banco qui me l'a apporté s'est lancée dans une diatribe sur le titre du livre. C'était pas I Tempi Grigi della Storia d'Italia, mais I Tempi Neri, parce que c'était vraiment le pire qui soit jamais arrivé à l'Italie, que cette occupation espagnole. Et ça m'a semblé assez frappant, d'autant plus que l'ouvrage en question, donc d'Ernesto Pontieri, qui était titulaire de la chaire d'histoire médiévale et moderne de Naples à la Federico II jusqu'en 1966, n'est pas un historien particulièrement fameux, mais l'ouvrage en question a connu 3 rééditions successives. C'est une compilation d'articles pas vraiment retravaillés sur l'histoire du Mezzogiorno, donc j'avais en plus là dans les mains un succès éditorial, alors qu'il ne s'agit pas d'un ouvrage particulièrement attrayant, à mon avis, en dehors d'un public universitaire. Cette anecdote pour vous faire garder à l'esprit au cours de ce parcours historiographique que les lieux communs sur le sud, quand on travaille sur cette région, mais même dans des périodes reculées, puisque c'est mon cas, ont quand même une forme d'activité épistémologique lointaine, latente. Vous aurez l'occasion de le voir, je l'espère. Afin de traiter cette question de l'historiographie de la légende noire dans presque toute son ampleur chronologique, je suis beaucoup sortie de mon domaine de compétences strictes, c'est-à-dire l'histoire du règne d'Alphonse le Magnanime, roi d'Aragon devenu roi de Naples au milieu du Quattrocento. J'ai exploré l'historiographie moderne et contemporaine du regno, mais nécessairement de façon très rapide et avec un utilitarisme assumé. Donc il vous faudra donc me pardonner les résumés et probablement les oublis commis pour me plier à l'exercice. Si j'ai oublié un historien méridional dont vous êtes spécialiste, je vous demande pardon dès à présent. En tout cas, il me semblait utile de me plier à cet exercice de mise en perspective de la période médiévale dans sa définition académique avec les temps modernes. Et dernière précaution oratoire qui s'impose, mais non des moindres, la restriction de mon propos à l'histoire du sud péninsulaire telle qu'elle a été faite par les méridionaux, à l'exclusion de la Sardaigne et la Sicile, la dernière étant intégrée à la couronne d'Aragon depuis les Vêpres siciliennes. Et donc l'histoire de l'imposition du pouvoir aragonais dans l'île est tout à fait différente de celle de Naples, conquise plus d'un siècle plus tard. Et en ce qui concerne la Sardaigne, Elle a été acquise en 1420 par la couronne aragonaise, mais au terme d'une longue lutte d'influentes contre Gênes et Pise après, qui contestait la souveraineté aragonaise sur ces îles méditerranéennes. En fait, l'histoire sarde est beaucoup plus proche de l'histoire de la Corse. Et donc, pour mon propos, ce n'était pas très intéressant de l'associer à Naples. Voilà. Et pour situer un petit peu l'actualité de toutes ces réflexions que je vais vous proposer, je vais faire le détour par la présentation de mon travail doctoral en cours, donc une thèse en histoire médiévale. Je vais aller très vite, je vous promets, pour bien poser quand même les enjeux historiographiques. Ma thèse est intitulée « La société curiale et Naples, capitale d'Alphonse le Magnanime » et porte sur la période 1442 à 1458 qui correspond au règne italien du Magnanime. Ce dernier, en effet, est avant tout un roi d'Aragon, issu de la dynastie castillane des Trastamare. En 1412, son père, Ferdinand de Trastamare, connu aussi sous le nom de Ferdinand d'Antequera parce qu'il a, reconquis cette ville andalouse qui était aux mains des Nasrides auparavant. Donc Ferdinand d'Antequera est élu roi d'Aragon, car la maison des comtes de Barcelone était éteinte en ligne directe. C'est-à-dire que notre Alphonse, éduqué comme un enfant de Castille, devient alors héritier de la couronne d'Aragon, puis roi d'Aragon. Et en 1420, la maison angevine de Naples étant aussi en passe d'extinction dynastique, sollicite le Magnanime pour succéder à la dernière reine angevine de Naples, Jeanne II. Donc après une longue guerre contre René d'Anjou, lui aussi prétendant à la succession et des péripéties dont je vous fais grâce, Alphonse d'Aragon entre dans Naples en 1442 et met un point final à sa conquête du règne. Donc on a une trajectoire à l'échelle d'une vie humaine assez, assez spectaculaire et remarquable, un enfant de Castille devenu roi d'Aragon puis roi de Naples. À la mort du Magnanime, les territoires ibériques, Sicile inclus, elle est considérée comme un territoire ibérique, vont au frère cadet du Magnanime, Jean, tandis que le royaume de Naples échoit à son fils illégitime, Ferdinand Ferrante, comme l'appellent les Italiens. Dans ce contexte très général, j'étudie plus précisément la cour sous trois axes principaux. Le premier constitue en une étude institutionnelle avec l'outil tout à fait conventionnel pour ce type d'analyse, la prosopographie. Car l'approche très classique de la cour comme institution au service domestique du prince se fait toujours au risque d'obtenir des résultats biaisés par un effet de source si on se contente des sources normatives, c'est-à-dire de travailler sur la base des ordonnances de la cour. C'est pour ça la prosopographie, par son caractère pragmatique, c'est-à-dire la constitution d'une base de données enregistrant tous les individus présentés comme des curieux dans les sources, me permet d'appréhender les pratiques et de constater qu'on est face à une grande plasticité des usages par rapport aux normes établies par les ordonnances curiales. Et dans le cadre de la Naples aragonaise, l'écart est si grand entre les ordonnances et la pratique, qu'on peut en inférer que tout un pan de la documentation a disparu. Ce qu'un programme récent de l'École française de Rome appelle les écritures grises, une série de documents qui établissaient qui était vraiment à la cour, qui avait le droit d'être payé, qui n'était pas là, etc. Premier axe, donc, l'étude institutionnelle absolument classique. Un deuxième axe, une étude sociale, d'où le choix du titre de ma thèse, qui n'est pas vraiment évident du point de vue de l'efficacité rhétorique. Si vous avez des suggestions, je suis preneuse, parce que la société curiale et Naples, c'est pas très évident. Mais plutôt que d'envisager la cour, qui est un terme qui a tendance à un peu figer les choses, je préfère cette expression moins facile de société curiale, qui permet d'envisager ces dynamiques, ces évolutions. Et tout d'abord le fait qu'elle est une société de migrants, parce qu'Alphonse le Magnanime, d'Aragon, importe son personnel domestique et de gouvernement à Naples. Se pose alors la question de l'acculturation du groupe des curiaux et de relations avec la société locale, et en fait de la cohérence même de ce groupe qu'on postule comme homogène, la cour, les curiaux, ce qui n'est pas du tout évident. Ces étrangers, qui sont tous des Catalans aux yeux des Italiens, viennent en fait de tous les États espagnols, y compris le Portugal, avec lequel la famille Trastamare a des liens matrimoniaux. Et alors, pour anticiper une question que vous allez me poser, je n'utilise pas le terme courtisan, pour ne pas inviter Castiglione dans le débat. Parce que même si Le Courtisan n'a pas été publié très très longtemps après, c'est 1528, l'œuvre et la surabondante historiographie autour de cette œuvre charrient beaucoup de représentations qui sont complètement anachroniques pour le milieu du XVe siècle. Et donc, comme j'essaye justement de faire un travail sociologique le plus possible, et si tant est qu'avec une documentation endommagée du milieu du XVe siècle, on puisse faire vraiment de la sociologie, j'essaye de montrer très attentive aux représentations que les acteurs ont les uns les autres. Et donc Castiglione, non. Et le troisième axe, celui qui me tient le plus à cœur, c'est la thèse de ma thèse en quelque sorte, porte sur la dimension urbaine du phénomène curial. C'est pour ça que c'est la société curiale et Naples, capitale d'Alphonse le Magnanime. Les royautés ibériques médiévales sont en effet traditionnellement itinérantes. Mais le Magnanime, à partir du moment où il arrive à Naples, cesse cette pratique et fixe sa capitale dans Naples, où il engage une politique extrêmement active de grands travaux et de commandes artistiques. Posée en ces termes, alors l'approche est d'une parfaite banalité si on était en Italie du Nord. Elle ne l'est pas du tout pour les monarchies ibériques qui n'ont pas encore de capitale bien fixée à cette époque. En fait, Naples est la seule capitale ibérique au milieu du XVe siècle. C'est la seule ville qui se retrouve dans cette position. Donc, c'est une sorte d'apax historique. Et ce qui est aussi parfaitement banal que les relations du prince avec sa capitale dans le nord de l'Italie, il est aussi beaucoup moins à Naples parce que les sources urbaines médiévales ont disparu. Par ailleurs, je n'entends pas faire une histoire de cette politique de commande artistique, mais m'intéresser aux usages sociaux et symboliques de l'espace, du château, de la ville et de tous les lieux de ville et de sociabilité des curieux que je parviens à identifier, du grand sénéchal au personnel le plus humble, afin de tresser au mieux et de bien articuler donc, ces trois dimensions de la cour, l'institution, la société, l'espace. Voilà pour ce qui est en fait le plan de ma thèse. L'histoire connectée fait parler beaucoup d'elle en ce moment. Et mon ambition serait, à l'échelle beaucoup plus modeste de la Méditerranée, de reconnecter les différentes composantes territoriales de la couronne d'Aragon à l'époque d'Alphonse, en utilisant la cour comme point focal, de façon à rompre, en tout cas à innover, j'espère, par rapport à des traditions historiographiques extrêmement marquées par le localisme, à la fois en Italie et en Espagne. La titulature du Magnanime reflète parfaitement ce phénomène. On le trouve labellisé comme Alphonse V de Trastamare ou de Antequera dans les ouvrages castillans, Alphonse V d'Aragon dans l'historiographie catalane, mais selon le royaume concerné, c'est aussi Alphonse III de Valence, Alphonse Ier de Majorque et de Sicile, et Alphonse Ier de Naples. Et en faisant des recherches dans les catalogues de bibliothèques, au début de ma thèse, j'ai raté un certain nombre de titres essentiels quand je ne maîtrisais pas bien toute la bibliographie parce que je n'avais pas pensé que c'était Alphonse III de Valence, par exemple. Cette bibliographie est le lieu d'une importante concurrence pour la mémoire des diverses entités régionales qui composent les possessions du roi. Et récemment, les seuls travaux à s'être intéressés à l'ensemble de ce que j'appelle de façon un peu provocante et à la suite d'Alan Ryder, l'Empire britannique sont précisément les travaux sur l'état moderne dans la Naples aragonaise de Alan Ryder. Au début de mon travail, c'est ce constat de fragmentation et de concurrence de l'historiographie qui m'a procuré l'impression d'être dans une position intellectuelle confortable de neutralité, au-dessus de la mêlée en quelque sorte, entre Espagnols et Napolitains. Les Napolitains ne travaillaient que sur les Napolitains, les Catalans sur Barcelone, les Valenciens sur les archives de Valence et les Valenciens. Donc j'avais l'impression que j'avais une position épistémologique assez facile, mais cette impression de confort n'a pas duré au fur et à mesure que mon travail m'a conduit à considérer de plus en plus que l'un des principaux enjeux du travail sur la cour comme institution et de mesurer son degré de coalescence et de superposition avec l'État. à proprement parler. Et donc, ça m'impliquait de me confronter aux questions épineuses de l'État moderne, du degré d'autoritarisme dans l'exercice du pouvoir et de l'établissement d'une chronologie des principales évolutions. Et il s'agit pour moi d'une question absolument consubstantielle de l'étude de la Cour, et c'est pourquoi je ne revendique pas du tout de m'associer aux très récentes Court Studies qui commencent à fleurir. Il y a une revue récente qui porte ce titre, qui, dans la formulation de leur projet, tente selon moi à faire de la Cour un objet un peu anhistorique, flottant au-dessus du sol, et qui, dans un projet tout à fait louable de comparatisme, en fait, tente à couper l'étude des cours de leur contexte urbain, économique et social. Et à propos donc de la question de l'État moderne, en Italie, en particulier dans les États méridionaux, ces thèmes remettent au premier plan la perception des étrangers. Et par ailleurs, dans mes sources, j'ai lu beaucoup de choses, j'ai accumulé un dossier de citations à partir de mes sources napolitaines qui accablent les Aragonais sous le règne d'Alphonse le Magnanime. Alors, les principaux griefs sont que l'entourage royal est exclusivement composé de Catalans, c'est-à-dire à la fois dans les positions curiales domestiques et de gouvernement, et leur arrogance, la superbia des Catalans. Et c'est ce qu'on entend à Naples. Et donc, ça m'évoquait ce discours présent, ambiance, ce lieu commun qu'on entend tout le temps dans le mezzogiorno de la culpabilité de la présence espagnole, de l'état défaillant sous les Espagnols à Naples. Et donc, j'ai afin de chercher des repères pour l'analyse de ce dossier documentaire qui me laissait très mal à l'aise parce que, en fait, assez en décalage avec le reste de l'historiographie du Magnanime, qui est réputé être le roi qui a fait la Renaissance à Naples, donc une historiographie très centrée sur la commande artistique et des aspects brillants, glamour, il faut le dire, du règne du Magnanime. Et c'est le patron de Lorenzo Valla, il fait venir tous les humanistes à la cour, etc. Et donc cette documentation avec énormément de violence dans le langage contre l'entourage royal me laissait un peu démunie, et donc j'ai entamé un grand balayage de la production historiographique moderne, en partie presque jusqu'au Risorgimento et après c'est l'historiographie actuelle, de la présence espagnole à Naples, et est-ce que je pouvais trouver des points d'appui pour analyser ce phénomène au XVe siècle. Et donc je me demandais comment, dans l'historiographie napolitaine, la monarchie aragonaise a-t-elle été analysée en regard de la présence espagnole plus tardive, comme un prologue, ou alors est-elle complètement épargnée par la légende noire? C'est la tendance actuelle de l'historiographie, c'est de considérer que voilà, la cour de Naples est très brillante. C'est, alors une cour brillante aussi, c'est extraordinaire. C'est un épithète quasi homérique quand on parle d'une cour, qu'on n'interroge jamais. J'aimerais bien savoir ce qu'est une cour brillante. Pour rendre un peu intelligible et éviter un très long catalogue, j'ai fait une petite typologie. Donc il va y avoir des allers-retours chronologiques de l'éventail de la légende noire espagnole et de la place qu'elle ménage aux Aragonais à Naples. Alors, on a une première tendance qui se dessine, c'est justement les Aragonais épargnés par ce discours sur l'Espagne, source de tous les maux et du sous-développement méridionaux. Alphonse le Magnanime, le bâtisseur, ou alors le thème de la parenthèse aragonaise heureuse. C'est le discours qui est bien entendu façonné par ces humanistes que j'évoquais, Antonio Beccadelli, Lorenzo Valla, Bartolomeo Faccio et après le Pontano, qui sont tous stipendiés par le Magnanime et par son héritier Ferrante, et qui brossent une histoire très heureuse, bien sûr, des règnes. Donc là, on peut passer très vite pour trouver ensuite Pietro Giannone qui est l'auteur de ce que l'on peut considéré comme un des plus grands succès de l'historiographie napolitaine. C'est un ouvrage donc, du XVIIIe siècle qui a été un véritable best-seller dans l'Europe des Lumières et qui est encore très très riche et qui est utilisé par tous les médiévistes pour des détails très importants qu'il donne sur la Naples médiévale. Et donc Giannone, et lui, prend note à de nombreuses reprises que les Napolitains détestent les Catalans et ils déplorent l'excès des dépenses du magnanime, mais disons que ce qu'il écrit sur le règne, c'est une série d'importantes réformes administratives et législatives ayant posé les fondements des institutions modernes, réforme de la vicaria, de la sommaria, et donc plutôt une image à nouveau du magnanime en bâtisseur. Par ailleurs, dans des chroniques beaucoup plus obscures par rapport au travail historiographique de Giannone du XVe siècle, et dont les auteurs sont des notaires assez proches de la frange la plus populaire de la population de la capitale, on a des traces d'une véritable popularité du magnanime. Au XVe siècle, parmi le petit peuple de Naples. On trouve également cette idée de parenthèse heureuse dans la correspondance de Cala Ulloa, donc le dernier premier ministre de François II à Naples, qui écrit dans ses lettres que la vice-royauté et c'est-à-dire des Espagnols ont annulé les bienfaits de la civilisation aragonaise. Donc il y aurait une civilisation aragonaise à Naples. Et Benedetto Croce, évidemment, et surtout, a beaucoup écrit en faveur d'un métissage harmonieux, pour aller vite, sous les Aragonais, et a décrit en fait une forme d'humilité du prince espagnol arrivant à Naples et découvrant les merveilles de la Renaissance, de l'art italien, et qui en a fait. Enfin, en quelque sorte, a investi sur cette civilisation brillante italienne. Également, Gabriele Pepe, qui est l'auteur d'un bilan historiographique sur le Mezzogiorno, mais qui est en fait une véritable charge contre le gouvernement moderne de Naples, à partir de la vice-royauté. Souligne qu'il y a eu des parenthèses, comme celle du malheureux Ferrand d'Aragon, parce qu'il n'a pas très bien fini, c'est surtout sa descendance. Mais donc, même parmi des tenants de la légende noire et de la vice-royauté et de l'occupation espagnole, on trouve des jugements positifs sur les Aragonais de Naples. Voilà pour ce premier aspect. Après, on va vraiment se mettre à parcourir l'éventail de la légende noire à proprement parler. Je vais commencer par éviter soigneusement d'évoquer les analyses de Machiavel et de Guicciardin. Parce que il y a là. Enfin, ce sont les deux étoiles au firmament de l'historiographie de l'Italie, c'est compliqué. Et ce sont des continents entiers de l'érudition italienne. Et les effleurer, je crois, suffiraient à complètement engloutir le temps dont je dispose ici. Et puis, je ne suis pas du tout la personne indiquée pour parler de Chardin et de Machiavel. Je constate qu'ils ont fondé un discours, un récit matriciel d'un basculement brutal, d'une suggestion amère aux puissances étrangères en général et plus durablement à l'Espagne. Mais je ne reviens pas sur l'Italia calpestata alla gente barbarica. C'est l'expression de Machiavel. De la même façon, je le regrette parce que c'est plaisant, mais je fais l'impasse sur les principales figures littéraires de la légende noire espagnole, donc Don Rodrigo, non, et le Matamore, non plus. Mais d'ailleurs, j'ai une question pour vous. À votre avis, est-ce que l'Innominato est espagnol? J'ai vraiment concentré l'enquête dans les mises en récit de l'histoire du Regno qui ont été élaborées dans ses frontières. Donc, Pontano, que j'ai déjà évoqué comme l'un des...
C'est un salopard, c'est un espagnol.
Non. J'ai ma réponse.
Hein? Bah, c'est vrai, on ne sait pas. Voilà.
Il y a de grandes chances.
Il y a de bonnes chances. Ouais.
Je disais, oui, Pontano, un des humanistes de la cour, un des turiféraires de la dynastie quand même, souligne déjà dès son récit de la guerre de succession de Naples entre le règne du Magnanime et de Ferrante, le rôle de la personnalité de ce dernier, donc le fils illégitime du Magnanime, jugé dissimulateur, faux par ses contemporains, au contraire de son père. Et ce jugement, en fait, s'est beaucoup perpétué dans l'historiographie, chez Camillo Portio, qui est l'auteur en fait de la version la plus diffusée du récit de cette de la guerre des barons, de la conjuration des barons, c'est-à-dire la deuxième guerre civile de Naples sous le règne de Ferrante et celle des années 1480. Et donc le portrait moral de Ferrante, qui est jugé cruel, mais surtout le rôle de l'héritier du duc de Calabre est aussi souligné. On a la transmission de l'idée que ce sont des personnalités antipathique. Alors l'accusation de bellicisme est assez injuste, je crois, mais il est vrai que la révolte des barons laisse à penser que ces souverains, dans leur comportement avec leur entourage, ont causé beaucoup de tensions parce que des Catalans de la deuxième génération, des gens qui sont arrivés en Italie avec le Magnanime, font partie des révoltés des années 1480. Ils sont arrivés avec le père, ils sont restés à Naples alors que beaucoup sont repartis dans le royaume d'Aragon à sa mort, mais 30 ans plus tard, ils se révoltent contre le fils. Alors, autre type de jugement, un peu différent dans Le Forastiero de Capaccio. L'idée que le roi s'adonnait au commerce. Et donc également une mauvaise réputation morale. Là, c'est un jugement beaucoup plus singulier et qui est corroboré par les archives et les travaux absolument formidables du grand historien du commerce napolitain et catalan qui était Mario Del Trepo à Naples, qui a bien montré que effectivement le trésor royal sert aussi à investir dans la construction de navires et que ces navires sont confiés à des patrons loués et que le cas échéant ils servent de bâtiment pour la guerre, mais que le roi s'adonne au commerce. Donc ça c'est assez exact, en tout cas utilisé plus tard pour jeter une ombre assez sinistre à nouveau sur la personnalité de Ferrante. Alors autre récit très important de l'histoire méridionale, donc dans les premières pages de son histoire de Naples qui ne concerne pas du tout le Moyen-Âge, mais Pietro Coletta, qui est un des accédé aux responsabilités militaires durant le Decennio Francese et a écrit son histoire après un exil en Toscane après la restauration napolitaine, écrit donc transmet ce souvenir des Aragonais avec aussi l'idée là qui ne concerne pas que les Aragonais mais qui fait partie aussi des lieux communs sur la présence espagnole en Italie, que si les régimes étrangers étaient mauvais en eux-mêmes, leur succession rapide a été a renforcé leurs effets délétères. Ensuite, alors après, dans la droite ligne en fait de Machiavel et de Guichardin, je crois, mais vous me direz, on passe aux déclinaisons particulièrement virulentes de la légende noire espagnole en Italie, des jugements donc sur le gouvernement espagnol au XVIe, au XVIIe siècle, qui oublie complètement les Aragonais. Donc ça, c'est assez frappant. J'ai lu dans le détail, certains. Et donc le premier, Camillo Tutini, qui est l'auteur d'une histoire des Seggi de la ville, donc du gouvernement municipal, et l'une des figures importantes engagées dans les événements révolutionnaires de 1647-1648, a donné, avec ses prodigiosi portenti del Monte Vesuvio, la première diatribe vraiment contre les Espagnols, vraiment formulée en termes de nationalité. Il y a les Espagnols, il y a les Napolitains, en tout cas je crois, peut-être que je dis une bêtise. Utilisant la figure du Vésuve comme, enfin la figure du Vésuve, utilisant le Vésuve comme symbole du caractère du peuple napolitain et comme un signe avant-coureur en fait de l'éruption de Naples, parce qu'il y avait une éruption du Vésuve en 1631. Voilà, sinon c'est avec les Massime del Governo Spagnolo a Napoli de Paolo Mattia Doria que on arrive à une élaboration du discours de dénonciation du mal governo espagnol qui est bien en place et qui ensuite sera transmis et repris ad libitum dans l'historiographie. Donc la corruption de la bureaucratie et le favoritisme, la négligence et le désordre dans l'administration du territoire, un excès de pression fiscale et une forme de parasitisme de la cour et du gouvernement, avec un rapport colonial au territoire, et enfin la mise en pratique de la maxime « diviser pour régner ». Et donc j'en viens au texte qui s'affiche, « Cuoco ». Également au ministre durant le Decennio Francese, qui, lui, dans ses considérations sur la présence espagnole, fait particulièrement ressortir et noircit beaucoup la figure du vice-roi Pietro di Toledo, en faisant le responsable de la perversion des valeurs morales et des comportements économiques à Naples, le principal rouage en fait de la transmission d'une mentalité où on valorise de s'enrichir à ne rien faire. Donc voilà pour Coco. Et il introduit également la tendance, j'ai pas trouvé ça vraiment avant lui, à faire des comparaisons et introduire vraiment l'idée de circularité et de répétition entre les gouvernements successifs à Naples. Pour ce qui est donc de cette image vraiment très très noire des Espagnols à Naples, il y a Francesco De Santis, dans sa très fameuse Storia della letteratura italiana, qui, lui, plutôt en portant un jugement dans le domaine culturel, a présenté l'idée d'une décadence, à l'époque moderne à Naples, l'imposition d'une nouvelle culture de l'extérieur et d'oppression des génies méridionaux, avec évidemment Bruno et Campanella en martyr, et l'Espagne caricaturée en bras armés de la contre-réforme. Et enfin, donc après le domaine culturel, il y a aussi une veine juridique de la légende noire représentée par l'historien Nicolas Santamaria, principalement dans l'ouvrage intitulé I feudi, il diritto feudale e la loro storia de 1881, qui exalte les juristes médiévaux et la vitalité juridique de la commune médiévale contre la reprise féodale qui est commencée au XVIe siècle, alors qu'en fait maintenant on sait que ça commence avant, et aussi une idéalisation des puissances permises par de l'équilibre des puissances permis par la paix de Lodi. Et donc tous ces tenants là de la pire légende noire, mais qui en fait ne concerne pas tellement mes Aragonais, et qui d'ailleurs moi ne m'aidait pas tellement dans ma réflexion, sont battus en brèche largement par Benedetto Croce, l'inévitable, principalement dans cet ouvrage et aussi sa Storia del Regno di Napoli. Et j'ai repris cette citation de Croce qu'on retrouve partout, quasiment, en mettant en gras cette partie-là qui souvent ne figure pas. Et donc, quand en Italie, on essaye d'utiliser Croce de façon pas très honnête, en fait, on fait commencer la situation-là, avec donc forcément un sens complètement travesti de ce qu'il veut dire. Croce défend les Espagnols, particulièrement les Aragonais, et présente en fait l'idée selon laquelle les Italiens ont complètement participé à leur propre décadence, et que l'Espagne était un État qui a fonctionné comme l'Italie, comme un ferment utile et nécessaire pour le passage à l'échelle d'État-nation, alors que les Italiens, sans ce levier, seraient restés cantonnés à des ambitions politiques locales et qu'il n'y aurait pas eu l'élan du Risorgimento sans ce passage et ce détour par l'intégration dans l'Empire espagnol. Et donc l'Espagne est sauvée en quelque sorte parce que c'est présenté comme une étape d'un processus inéluctable qui est celui du Risorgimento. Il exonère en grande partie donc les Espagnols de la culpabilité et de tous ces jugements négatifs de l'historiographie qui l'a précédé, soulignant que la Spagne gouvernava il Regno di Napoli comme gouvernava se stessa. Il n'y avait pas donc de différence, pas de rapport colonial à l'Italie, et qu'elle était traitée comme le reste des domaines espagnols. Et à cette représentation de l'Espagne, du rôle de l'Espagne à Naples et du chemin vers le Risorgimento, de Croce s'oppose une tradition historiographique dont Ernesto Pontieri, celui que j'ai cité au début avec les Tempi Grigi della Storia d'Italia, est le principal tenant. Et pour parler très, très schématiquement, Benedetto Croce, c'est l'idéalisme, et Pontieri, c'est une histoire matérialiste, alors pas marxiste, il n'est pas marxiste, mais qui s'attache à récuser Croce en soulignant qu'il n'importe aucune considération aux structures de la propriété, aux conditions économiques, et il reproche vraiment à Croce de ne pas prendre la mesure du cadre féodal de l'économie durant la vice-royauté au bénéfice d'une appréciation du régime en termes politiques généraux, pour ne pas dire abstraits, d'équilibre des puissances européennes. C'est un peu un raccourci, mais disons que dans sa contribution à l'histoire d'Italie de Einaudi de 74, Braudel, qui est l'auteur des chapitres sur le XVIe siècle, est assez proche de la teneur des idées de Pontieri et part en quête des causes de l'incapacité du Regno à développer une économie capitaliste rationnelle. Et là, je citais, et donc il trouve ses causes dans la reféodalisation et l'exploitation fiscale au service des guerres d'Espagne. Mais alors, dans un article de Maurice Aymar, qui est dans la bibliographie qui circule, Maurice Aymard écrit que, après Brodel aurait exprimé des regrets sur le manque de nuance de cette assertion, tout en ironisant sur l'histoire de Croce, dans laquelle on ne voit pas apparaître le début d'une oreille de mouton, je cite, évidemment. Et en fait, les critiques à Croce, qui sont en fait des critiques méthodologiques, ont contribué à beaucoup déconsidérer son évaluation assez équilibrée de la présence espagnole en Italie et son évaluation en fait carrément positive de la présence aragonaise. Donc après Pontieri, qui donc était jusqu'en 1966 le professeur de médiéval et de moderne à la Federico II, se joue, selon Mario Del Trepo, que je cite là dans la storiografia del Mezzogiorno, une césure très importante, car Pontieri, selon lui, faisait aussi une histoire qui partait plus de ses présupposés que de la documentation. Il écrit, et c'est très sévère comme jugement, « La storia più che analizzata nelle sue strutture con le fonti e i documenti appropriati, essa era a prioristicamente dedotta dalla forma politico-istituzionale della monarchia. Voilà, » je suis désolée pour mon accent français, il a coupé au couteau. Donc, Mario Del Trepo, qui, lui, a fait énormément de travail économique à partir aussi de la documentation notariale, ne cite pas très explicitement la réception de l'histoire des annales, mais elle joue évidemment un rôle central dans ses propres préoccupations. Et la normalisation de l'historiographie du règne et la ringardisation, je crois qu'il n'y a pas d'autre terme, très rapide dans les années 60 de ce thème de la légende noire des Espagnols, de la corruption, du mauvais gouvernement, qui deviennent très rapidement de vieilles lunes. Et donc en témoigne de cette normalisation le fait que Del Trepo, mais aussi Giovanni Vittolo, qui est toujours actif à la Federico II, sont intégrés au GISEM, le Gruppo Interuniversitario per la Storia dell'Europa Mediterranea, qui fait la promotion des recherches sur, je traduis, le système des rapports et des relations en Europe à l'époque médiévale et pendant la première modernité sur le plan économique, social, institutionnel et politique. Religieux et culturel aussi. Donc le groupe pratique une histoire comparatiste qui a amené à des comparaisons très fructueuses entre Naples, Gênes, Pise, envisagées ensemble, et non plus avec Naples à part, marquée par l'inéluctabilité d'un destin exceptionnel, marqué par l'échec économique. Et Pietro Cora, pour la Sicile, est une figure un peu équivalente dans l'historiographie. Et dans le domaine de l'histoire moderne, là je parlais plutôt des médiévistes, Giuseppe Galasso, qui a écrit les pages sur Naples dans la grande histoire de l'Italie, et aussi un ouvrage intitulé « À la périphérie de l'Empire, le royaume de Naples » pendant la période espagnole, défend l'idée que on ne peut pas traiter de la Naples espagnole sans faire l'histoire de toute l'Europe et sans l'inscrire dans l'Empire espagnol qu'il convient d'étudier comme un ensemble. Donc les travaux de Del Trepo et Galasso, complètement désengagés du jugement sur la présence espagnole, ont créé une atmosphère intellectuelle qui fait que, voilà, au début de mon travail doctoral sur l'Italie méridionale, à aucun moment on m'a parlé de cette historiographie de la légende noire. À aucun moment, moi je n'ai eu à me positionner par rapport à ça. C'est pas du tout un sujet brûlant. En revanche, c'est un lieu commun des conversations quand on est en Italie. Et ça reste quand même à l'esprit sous cette forme. Et aussi pour l'époque moderne, la thèse de Mireille Pétavin sur le gouvernement de Naples par la pratique des visites royales au XVIe et au XVIIe siècle, alors évoque très très rapidement une image noircie, épaissie et barbouillée du gouvernement espagnol à Naples, dans les prémices de son travail, mais considère que c'est une historiographie dépassée. Elle est dépassée à plus d'un titre parce que l'actualité de ce débat ancien sur les effets, les conséquences, notamment économiques et politiques, du pouvoir espagnol est complètement en train de glisser et de se déplacer au bénéfice du courant actuel révisionniste de l'histoire du Risorgimento. Et la dynastie de Savoie se substitue à Madrid et à ses vice-rois comme figure de l'oppresseur. Ça donne d'ailleurs lieu à des cohabitations assez drôles dans les rayons de la Feltrinelli et de Naples, entre les ouvrages de Pino April et l'histoire de la Naples espagnole de l'historien espagnol catholique Francisco Elias de Terrada, qui lui présente une histoire de la Naples, une histoire d'une Naples heureuse, qui connaît son apogée sous l'occupation espagnole, parce que le baroque, l'inquisition, le catholicisme, la contre-réforme, tout ça, en fait, c'est l'âme napolitaine. Et je caricature à peine. C'est un historien très, très... c'est intéressant à lire. Voilà. Et chez les historiens universitaires, ce sujet de l'Espagne aussi n'est plus du tout d'actualité. Voir par exemple justement les travaux des médiévistes et modernistes Aurelio Musi et Giovanni Vittolo dans l'ouvrage intitulé Il Mezzogiorno prima della questione meridionale, paru en 2004 à Florence. Et donc on voit bien le décalement. Et dernier avatar de ces débats, il faut le signaler, je crois, un ouvrage qui s'appelle La retratezza del mezzogiorno, le idee, la economia, la storia, paru chez Bompiani cette année, et dédié aux victimes de la lutte contre la mafia, doté d'un premier chapitre qui porte donc sur le Moyen-Âge, intitulé Lo sviluppo soffocato sul nascere, de Cosimo Perotta, un professeur d'économie à l'Université du Salento, qui reprend l'ancienne de l'absence d'initiative économique au Sud, d'économie coloniale, etc., en balayant d'un revers de la main tous les travaux d'un médiéviste comme David Aboulafia, qui a montré que pour le XIIe et le XIIIe siècle, il existait un rapport de force économique plutôt équilibré entre le Nord et le Sud. Et je crois qu'on peut dire que c'est un livre assez scandaleux. Mais en tout cas, voilà, j'étais arrivée très, très récemment au constat que mes interrogations sur cette historiographie et mes difficultés, moi, à appréhender mes sources qui font état d'une détestation extrêmement virulente des Espagnols à Naples au XVe siècle, que cette historiographie-là était en quelque sorte un peu morte et inactuelle jusqu'à ce que je mette les mains sur une revue intitulée Frontiera d'Europa, dont le premier volume date de 1999 et dont l'animateur est Raffaele Aiello, qui je crois est à l'université de Bari, j'ai oublié de noter, qui lui propose de faire l'histoire du Mezzogiorno à l'aune de la notion de frontière. Il propose d'envisager que le Mezzogiorno ait été utilisé par les Espagnols comme un glacis pour se défendre de l'islam, et que ça a été tout à fait donc déterminant dans le développement économique et politique du pays. Donc une historiographie que je pensais un peu froide, mais qui, avec Aiello, en fait, retrouve récemment un regain d'actualité. Il s'est aussi fendu d'un article extrêmement virulent, d'une violence surprenante, d'ailleurs, vu que Benedetto Croce est quand même mort et enterré depuis un certain temps, mais contre l'historiographie de Croce, qui est parue en 92 dans l'Archivio Storico per le Province Napoletane. Et je ne vous ai pas mis la référence, mais c'est une publication qui est tellement difficile à trouver de toute façon qu'à moins d'être à Naples. Voilà. Toujours est-il qu'avec cette légende noire complètement périmée, en train de se réactualiser, mais bon, d'une façon qui, moi, me semble pas du tout intéressante sur le plan épistémologique, je suis pas convaincue par cette idée de frontière. Et avec une historiographie chez les médiévistes qui est complètement pacifiée, je me retrouvais encore sans outils, sans figure d'autorité sur laquelle m'appuyer pour affronter mon dossier de source accablant pour les Aragonais. Parce que, donc, comme je le disais en commençant, l'historiographie actuelle est peu active dans le champ de l'État à proprement parler, mais il y a une doctorante à Naples qui s'appelle Ensa Russo qui travaille sur les pratiques financières et comptables. Et en revanche, une floraison de travaux sur le magnanime Il re che ha fatto il rinascimento a Napoli. Donc, pour citer Enrique de Rosa, c'est le titre de son ouvrage de 2003, et avec alors quasiment un article par an, voire deux, sur son entrée triomphale dans Naples en 1443, qui était la première réactualisation d'un triomphe antique en Italie au XVe siècle. Et avec aussi tous les travaux de Gennaro Toscano sur la bibliothèque des Aragonais, la très bonne thèse de Johanna Barreto en histoire de l'art, intitulée « Du portrait du roi au portrait de l'État », quelque chose comme ça, sur la commande artistique de toute la dynastie aragonaise. Et également, dans le domaine économique, très important de soulever la thèse d'Hélénis Akelariou, Southern Italy in the late Middle Ages, Demographic, Institutional and Economic Change in the Kingdom of Naples, paru chez Bril en 2012. Donc voilà, je suis sans outils, sans soutien, sans appui, et je dois m'affronter toute seule aux représentations des contemporains du magnanime. À ces témoignages de leur détestation des Aragonais. Donc, pour ne pas parler trop longtemps, je vous ai simplement sélectionné cet extrait. Un texte composé par les frères Borsoleonello d'Este, qui est extrait d'une sorte de recueil de conseils pratiques de gouvernement adressés au prince, afin de l'informer de ce qu'ils apprennent et comprennent pour la conservation et l'augmentation de son état. En fait, les frères d'Este sont intéressés par la conservation de l'état napolitain parce que une des filles illégitimes du magnanime est fiancée alors à Leonello. Et donc cette alliance dynastique explique l'intérêt des Ferrare pour la préservation du pouvoir aragonais sur le Regno. Et les frères d'Este émettent les recommandations suivantes: il faut diminuer les dépenses, créer une cagnotte de 100 000 ducats par an, prévoyant notamment que la succession de Ferrante sera difficile et qu'il aura besoin de ses fonds, qu'il faut nouer une alliance avec Milan et imposer la domination aragonaise à l'Italie par l'acquisition par Alphonse Magnanime de la stature d'un roi de paix. Donc c'est en déroulant le fil de ces recommandations que les frères d'Este critiquent certains aspects du règne du Magnanime, en particulier la place attribué aux Catalans. Vous pouvez lire. Qui ont tous les offices du royaume et qui sont arrogants et tyranniques. Alors, sur l'attribution des fiefs aux Catalans et l'actualité de la reprise féodale dans le
règne. Non, il y a un truc qu'on comprend pas. Ah.
J'ai peut-être fait une faute. je crois qu'il faut bien remettre en contexte ce que Pierre Savy appelle la reprise féodale à propos du duché de Milan, et qui est le contexte le contexte général dans les états princiers au XVe siècle. Ensuite, sur l'accusation de ne pas, d'avoir spolié tous les Napolitains des offices à la cour et d'avoir donné les fiefs aux Catalans, en fait, quand on regarde de plus près, les 56 principaux fiefs rénicoles sont quasiment dans leur totalité attribués à des Italiens. En fait, c'est leurs anciens possesseurs qui sont confirmés dans ces fiefs. Et on a seulement quelques Catalans. Le Valencien Garcia Cabanels fait comte de Troia, et Inigo de Guevara fait comte d'Ariano et d'Apice. Sachant que ces comtés, Troia, Ariano et Apice, sont en fait principalement constitués des anciennes possessions de Francesco Sforza, qui, avant de faire l'acquisition du duché de Milan, était le plus grand feudataire des Marches, et qu'aucun lignage rénicole n'a été lésé par ce transfert-là. En fait, le seul domaine féodal qui est démembré au bénéfice des Catalans et des alliés italiens du magnanime, c'est celui d'un comte de Thiers et Giacomo Caldora. Donc, il n'est pas très compliqué, en fait, de démontrer la mauvaise foi frappante de ce passage, notamment quand on fait un pointage plus précis de la répartition des offices curiaux et de gouvernement entre Napolitains et Catalans que je fais dans ma thèse. Donc voilà un premier témoignage. Mais dans d'autres documentations, donc la Historia della città e regno di Napoli de Sumonte au XVIe siècle, on a un récit corroboré par plusieurs chroniques contemporaines, mais le récit n'est pas aussi complet, de scènes de panique dans Naples et d'émeutes quand le magnanime est malade et qu'il est possible qu'il meure. Les Catalans partent se claquemurer dans leur maison, s'enferment dans leur château, et sont littéralement assiégés par la foule napolitaine qui veut les chasser. Pendant les festivités d'adhésion du règne à la paix de Lodi, à la fin de l'année 1454 et en janvier 1455, le magnanime donne une série de grands banquets au cours desquels intervient un fâcheux incident diplomatique. En fait, au moment du dessert, à la fin du repas, le roi avait fait réaliser des châteaux de sucre filé avec les armes des principales puissances italiennes, et quand les châteaux arrivent dans la salle du banquet, le sénéchal avait été absent et avait surveillé une autre salle du banquet, et les armes des principales puissances italiennes ont été vandalisées par des Catalans, d'après ce que l'on nous dit. La période de l'agonie du magnanime voit aussi la réactivation donc, de ces scènes d'émeutes avec les Catalans qui s'enferment chez eux, et tous les récits en fait, de la bonne mort du magnanime insistent sur le fait qu'il a conseillé à son fils, sur son lit de mort, de se débarrasser des Catalans et de ne plus gouverner avec eux et de tous les renvoyer d'où ils venaient. Enfin, le dossier le plus fourni est celui constitué par les correspondances des ambassadeurs milanais durant l'été 1458, c'est en fait l'été de la mort du magnanime, qui annonce que non seulement la plupart des Catalans sont effectivement en train de partir, de quitter Naples, mais que ce changement suscite beaucoup d'allégresse dans la population. Après, en fait, on se rend compte que après une première vague de départ très rapide, il reste beaucoup de personnel curial catalan, pas dans les, pas les principales figures, mais les personnes d'un niveau moyen, à la chancellerie notamment, et l'administration financière encore largement aux mains de Catalans. Et donc pour faire l'analyse de cette xénophobie, j'étais tout à fait dépourvue jusqu'à ce que je trouve un peu par hasard un article de Martin Aurel, médiéviste spécialiste de la Catalogne, un article des Annales de 1995, je crois, intitulé « Messianisme royal de la couronne d'Aragon, 14e-15e siècle », qui, en fait, a complètement changé ma vision de ce problème de la xénophobie anti-catalane à Naples, et m'a fait comprendre mon erreur, c'est-à-dire que je considérais moi-même les Catalans et la période de la domination aragonaise en Italie méridionale comme en quelque sorte un prologue de la suite, la domination espagnole. Et donc je cherchais du côté de la légende noire postérieure des outils pour comprendre la xénophobie à Naples au XVe siècle. En fait... C'est dans la xénophobie anti-catalane précédente qu'il fallait chercher des réponses. Mais c'était juste avant cet article, en fait, j'ignorais complètement que en Italie, particulièrement dans les milieux cléricaux, et en fait c'est un trait de la spiritualité franciscaine essentiellement, c'était développé dans le sillage de la diffusion de la tradition prophétique des représentations excessivement négatives de la maison royale d'Aragon. En fait, dans son article, Martin Aurel montre comment les rois d'Aragon, eux-mêmes entourés de franciscains, ont su s'approprier et retourner comme un gant, de façon assez brillante, la tradition prophétique franciscaine issue de Joachim de Flore en Italie et illustrée par Arnaud de Villeneuve dans le Languedoc, et donc, prophétie relative initialement à l'empereur Frédéric II. Et des prophéties qui reprennent, développent l'idée de l'arrivée de l'empereur de la fin des temps, donc une figure temporelle qui serait le pendant de l'antéchrist qui devrait être un pape, et dont le règne terrestre doit annoncer la fin des temps. Et en fait, la récupération de cette mémoire est facilitée, est opérée par le biais de la dernière alliance matrimoniale en fait des Staufen, parce que Frédéric III d'Aragon avait épousé Constance, la dernière héritière des Staufen en Sicile, et c'était à ce titre que les Siciliens l'avaient proclamé roi en 1282, après l'épisode des vêpres siciliennes. Et cette figure de l'empereur de la fin des temps est une figure complètement ambivalente, parce que c'est une figure censée donc annoncer la fin du monde, mais après un règne incontesté et après avoir soumis les Juifs et les musulmans. Et donc, au lieu de vitupérer avec les autres franciscains, ceux qui entourent la maison d'Aragon retournent cette matière mythologique, non, disons prophétique, le terme est prophétique, et mettent en place une récupération positive de ce mythe, en posant les rois d'Aragon comme de potentiels empereurs de la fin des temps, susceptibles d'inspirer la même terreur révérentielle. Et dans le domaine iconographique, les rois d'Aragon s'approprient aussi ce registre du surnaturel, pour aller vite, en utilisant la forme du dragon, qui, à partir du XIVe siècle, est utilisée dans les cimiers, donc c'était les casques des rois d'Aragon. Et c'est une figure parlante, en fait, drago et d'arago, il y a une consonance que vous entendez. Et donc le dragon initial étant décliné ensuite au XVe siècle sous la figure qui s'est transmise jusqu'à maintenant comme symbole de la Catalogne, particulièrement de la ville de Valence, du rat alat, donc de la chauve-souris. Et ce mode d'exaltation de la puissance des rois d'Aragon a eu pour effet d'entretenir dans les milieux religieux, spécialement mendiants, une xénophobie anti-catalane, en fait, qui est apparemment très virulente au cours du XIVe siècle, sur laquelle je souhaiterais en savoir plus, mais c'est un projet postdoctoral, hein, et qui, je pense maintenant, est le terreau des phénomènes que l'on constate à Naples, en tout cas un des facteurs des phénomènes que l'on constate à Naples. Et en relisant Giannone, on n'aimait pas simplement les passages sur le XVe siècle, mais aussi les pages qui consacrent aux vêpres siciliennes, on lit déjà sous sa plume des traces d'une haine très active des Catalans. Donc un antique catalanisme largement clérical, qui n'est pas arrangé évidemment par le fait que le dernier antipape du grand schisme est un Aragonais, Benoît XIII, qui, bien que dépourvu de tout soutien des rois d'Aragon, a résisté seul, enfermé dans sa forteresse de Peñíscola jusqu'à sa mort dans les années 1430. Donc là où moi je cherchais dans l'histoire politique, administrative du règne, des explications, en fait je crois que je les ai trouvées en cherchant dans la période précédente et dans le domaine culturel des explications de cette xénophobie pour la période qui me concerne. Et c'est pourquoi, jusqu'à présent, mes sources et la compilation que j'en avais faite ne s'articulaient pas du tout à l'anti-hispanisme qui a fait florès après à l'époque moderne et contemporaine. Voilà, et donc maintenant, je crois que j'ai compris que recourir à la tradition historiographique de la légende noire ne m'aidera pas. C'était une erreur que j'ai faite au début de mon travail que de considérer l'Italie comme vierge de toute représentation des Aragonais, des Catalans, avant leur présence effective à Naples. Une erreur de débutant. Mais je crois que là-dedans, en fait, j'ai été contaminée en fait, par les lieux communs actuels, hein, qu'on entend à Naples, hein, espagnol, c'est le mal. Et donc moi qui me croyais dans une position historiographique assez sûre, comme je vous le disais, je ne suis pas une Catalane en train de faire l'histoire des Catalans, ou une Napolitaine en train de faire l'histoire seulement des Napolitains, j'avais l'impression d'avoir un recul historiographique. Je m'étais un petit peu abusée. Voilà. Et ce qui me conduit aussi, je crois, à réévaluer l'importance de la césure que représentent les guerres d'Italie, moi, que j'avais complètement sous-estimée dans mon travail, en considérant que la domination aragonaise de Naples, c'est. On pouvait peut-être en faire une lecture continue. Mais je pense qu'il y a effectivement là un changement d'échelle, d'enjeu, de la présence espagnole, et que ça induit des changements que moi j'avais complètement sous-estimés. Voilà. Dernière petite chose, il me semble que à l'aune de cet article, donc qui pour moi était vraiment très très important, de Martin Aurel sur la construction d'une image ambivalente de la monarchie aragonaise au XIVe siècle, je crois qu'à l'aune de cet acquis, on pourrait aussi peut-être relire un peu l'historiographie des Borgia, et aussi bien sûr dans la continuité moi du dossier documentaire que j'ai déjà sur leur perception à Naples. Voilà. Je vous remercie pour votre attention, j'en ai fini.